Vous écoutez RTL. RTL, 13h30, 15h, Les Essentiels de Michel Sardou, présenté par Marie Drucker.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être fidèles à RTL le week-end et de nous accueillir chez vous pour Les Essentiels de Michel Sardou. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'adore le principe de cette émission qui consiste à mieux connaître une personnalité au travers de ses choix musicaux et je suis enchantée de vous recevoir car je sais que vous allez gratifier nos auditeurs, j'espère, les auditeurs de RTL, de pas mal d'anecdotes. Vous repartez pour une tournée, Michel Sardou, intitulée Les Grands Moments, fin novembre, fin mars. 3 concerts à Bercy, 12, 13, 14 décembre. Les grands moments, les essentiels, musique. Ray Charles, premier essentiel de Michel Sardou. Pourquoi ?
D'abord pour une raison personnelle, là. Mes premières surprises parties quand j'avais 14-15 ans, c'était les premières surprises parties entre mouflets qu'on faisait en fin d'après-midi, début de soirée, un petit peu plus tard quelquefois, les premières fiancées, les premiers... Et c'était la chanson type de l'époque. Il y avait Voilà, c'est...
Vous dansiez, vous ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
On dansait à deux encore à ce moment-là.
On dansait à deux, oui, on dansait un peu, mais à plusieurs. Parce que voilà, ici, on dansait un peu comme on voulait. Ça pouvait être rock'n'roll, ça pouvait être dans tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas un style particulier de. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est une très jolie histoire. Voilà, j'ai eu l'occasion plus tard, bien plus tard, de rencontrer Ray Charles et il me l'a raconté. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui, à l'occasion, se procuraient le DVD du film de Ray Charles, s'appelle Ray. On le voit dedans. Il avait un contrat avec une boîte. Il passait à l'époque dans les boîtes de... Il y avait des musiciens, quoi, des boîtes des dancing. Et il avait un contrat de 35 minutes. Donc il avait un petit tour de chant qu'il calcule, ça fait à peu près, il calcule au pif comme ça, il doit faire 35 minutes. Donc il se met au piano, il joue. Et puis en fait, il fait que 20 minutes. Il sort de scène et le patron de la boîte lui dit « Ah non, 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 non. »
Trop court.
Moi, je vous ai dit 35 minutes, vous avez pas 35 minutes, vous ne serez pas payé. Il était en train de travailler sur Voilà, c'est. Il a dit, bon d'accord, j'y retourne. Et il a fait 25 minutes d'improvisation sur Voilà, c'est. Et la première fois qu'on l'a entendu, on l'entendait seul, parce que là, on l'entend avec la version définitive, les chœurs. Et n'oublie pas que c'est le premier disque, je ne sais pas si c'était un 33 tours ou un super 45 tours, où les deux faces sont la même chanson. Ouais. Tellement c'était long. Il est d'abord seul au piano, après rentre les chœurs, après, je sais plus si c'était un 33 ou un 45, je m'en rappelle plus.
45.
Un 45?
C'était un 45.
Ah bon, d'accord.
Oui. Oui, parce qu'on est une très très grosse équipe sur cette émission.
Très bien.
C'est essentiel.
Très bien.
Faut
non, mais je m'en rappelle plus parce que.
Je
retournais le disque.
Tout le monde est sur le coup.
Je sais que je retournais le disque pour continuer, mais je m'en rappelais plus si c'était un album, enfin, un 33 ou un 45. Mais ce qui est de marrant, c'est que pour se faire payer, il était obligé d'inventer Voilà, c'est, quoi.
Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les surprises parties. Donc, vous dansiez, oui. Vous écoutiez Ray Charles, vous draguiez aussi Michel Sardou à ce moment-là.
Non, 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 c'était pas comme ça à l'époque. C'était moins. On était très jeunes. Attends, quand je te parle de ça, on avait maximum
14-15 ans.
15, 16,
oui, mais c'était peut-être l'époque des
premiers
baisers
flirtait,
aussi.
Oui, on flirtait, on flirtait, on avait nos fiancés, on essayait de se faire des petites copines. Bon. Mais c'était pas le but. C'était de passer une soirée entre nous et de picoler un petit peu en cachette parce que les parents nous planquaient les bouteilles d'alcool, etc.
Mais c'était quand même très différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la même chose, les soirées, les copains, la musique, tout est différent.
Bah, tout est
on
différent.
On ne séduit pas de la même façon, on ne sort pas de la même façon.
Non, bah, aujourd'hui, tout est différent. Le monde change, le monde évolue. Je vais pas vous dire que c'était, je vais pas faire vieux con et vous dire que c'était mieux avant.
Mais
il y avait une chose qui était sympathique avant, c'est que c'était pas dangereux. Il n'y avait pas de danger, le danger qui peut être sous forme de drogue, sous forme de que sais-je, sous mille formes, alcool, etc. Il n'y avait pas de violence, de méchanceté vis-à-vis des filles ou d'agressivité. Bon, les filles pouvaient rentrer chez elles toutes seules en métro à l'époque. Aujourd'hui, à partir de 6h30, elles commencent à avoir un peu la trouille sur certaines lignes.
Oui,
c'était beaucoup
plus
cool. On avait une jeunesse beaucoup mieux. D'abord, on n'avait pas d'interdit. Ce qui nous faisait peur, en fait, quand on avait une relation, quand on en avait une, et c'était assez rare, Mais quand on en avait une avec
ça,
une jeune
ça a
fille,
changé après.
Avec une jeune fille, c'était mon Dieu pourvu qu'elle soit pas enceinte. Mm. C'était pas mon Dieu pourvu que je tombe pas malade. Mm. On pouvait conduire vite, on pouvait fumer, on avait une jeunesse beaucoup plus marrante que la vôtre. Mm. Moi, je vois mes fils, ils s'emmerdent comme des rats. C'est pas la même chose. Il mm. y avait pas un sagouin qui mettait un produit dans un verre pour profiter d'une faiblesse, etc. Ça ne nous serait même pas venu à l'idée. C'était vraiment se marrer. On passait des soirées formidables.
Alors, on passe un moment formidable sur RTL avec vous, Michel Sardou. On va marquer une première pause. Les essentiels reviennent dans un instant. On est ensemble jusqu'à 15h. À tout de suite.
RTL, jusqu'à 15h. Les essentiels de Michel Sardou.
RTL.
Les essentiels de Michel Sardou. Présenté par Marie Drucker.
La suite des essentiels de Michel Sardou jusqu'à 15h sur RTL. Alors, avec un essentiel, vraiment.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie.
Quelle merveille, hein?
Quelle merveille.
Quelle précision il a dans les textes. C'est-à-dire que dans tous ces textes, on peut tous les prendre les uns derrière les autres, il y a une précision, une véracité dans les espoirs d'un jeune chanteur, dans le désabusement du chanteur qui fonctionne qu'à moitié, mais qui y croit encore, puis d'un coup qui n'y croit plus, qui croit de moins en moins. C'est tellement vrai, d'autres ont réussi avec moins de voix, mais beaucoup d'argent. C'est un des meilleurs auteurs que nous ayons. En texte, que ce soit toutes les chansons prises au hasard, n'importe laquelle.
Mmh. Mais vous êtes, Michel Sardou, vous aussi, de cette famille d'auteurs dont les chansons racontent quelque chose.
Oui, mais il y a raconter quelque chose et il y a la précision du mot qu'a Charles. Charles n'emploie jamais un mot pour rien. Quelquefois, moi, je suis un peu plus feignant que lui, je me laisse un peu porter par la rime. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais enfin bon, c'est joli quand même. Tandis que lui, non, il s'acharne. Il y a une chanson qui s'appelle « Pour essayer de faire une chanson », elle est très peu connue de Charles, mais que tous les auteurs devraient mettre au-dessus de leur bureau avant de commencer à écrire en rime. Il a une technique, une précision, c'est un horloger. Chaque mot qu'il dit, chaque état d'âme qu'il exprime est vrai.
À quel moment, vous-même, Michel Sardou, vous êtes imaginé en haut de l'affiche?
C'est-à-dire, j'ai mis 7 ans avant de me faire connaître, 7-8 ans. J'ai chanté des choses, mais j'ai évidemment le désir que ça marche. Et puis, j'ai choisi cette chanson parce que quand ça a marché, quand ça a commencé à démarrer pour moi, il y avait une grande émission à l'époque à la télévision qui s'appelait Carpentier, donc tout le monde se souvient. Et le premier Carpentier que j'ai fait en vedette, j'ai fait mon premier duo avec lui. Mmh. Je faisais la première partie de sa chanson, je me voyais déjà en haut de l'affiche, et puis lui reprenait au moment où ce complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Lui, il reprenait là. Donc pour moi, c'était qu'il y avait une admiration sans borne pour lui, que j'ai toujours d'ailleurs. C'était un cadeau du ciel.
Vous avez grandi dans une famille, j'aime bien ce mot d'ailleurs, de saltimbanque, vraiment. Mmh. Jackie, Fernand Sardou sont comédiens, vos parents, votre grand-père Valentin Sardou est comédien, il est humoriste aussi.
Je remonte jusqu'à
18e siècle. Mais à ce moment-là, quand vous êtes enfant, adolescent, quelle idée vous vous faites vous-même d'une vie sur scène?
Je m'en fais aucune parce que je ne voulais pas être artiste du tout, je voulais être chirurgien.
Et
j'ai raté complètement. J'ai raté ma vie. D'ailleurs, ma vie est un ratage total.
Je plaisante, mais vous dites souvent que ça s'est fait.
C'est le
comme
hasard.
Si vous étiez spectateur de votre vie.
Évidemment, je baignais quand même dans le jus parce que mes parents étaient des artistes, mes grands-parents étaient mes aïeux, etc. N'en parlons plus. Mais j'étais pas forcément attiré par ça. Je faisais mes études, j'avais des copains, ils préparaient médecine. J'ai dit, tiens, c'est pas mal, médecine, c'est bien, je me voyais bien en chirurgie. Enfin, je voyais le côté déjà cinéma quand même. Je voyais le masque, le machin, le scalpel, la lampe et tout.
L'assistante.
Ouais. Je voyais marche, quoi, tu vois, un peu en gros. Bon. Et puis, le hasard a fait qu'un ami à moi, qui s'appelle Michel Fuguin, faisait des chansons.
Mmh. C'était votre bande, d'ailleurs, à l'époque.
Oui, c'était une bande de copains. On suivait des cours d'art dramatique. Bon, il présentait des chansons et il me dit, tu vas les chanter pour moi. Je chantais comme une casserole. Je n'avais pas de voix, j'avais très peu de voix. Mais enfin, j'étais assez gonflé pour aller dans les auditions publiques. Donc, je vais dans une audition publique, je chante une chanson de Fugain. Au lieu d'engager Fugain et de prendre sa chanson, m'engage-moi. C'est devenu comme ça, mais j'ai jamais pris ça au sérieux.
Non, mais c'est étonnant le nombre d'artistes qui racontent cette anecdote-là. J'accompagnais quelqu'un à une émission et c'est moi qui ai été choisi.
Alors, j'ai été choisi, j'y croyais pas du tout. Je fais mon premier disque, c'est une catastrophe. Le deuxième, une catastrophe. Le troisième, ma mère en achète 12. Et puis, je me mets à rentrer dans le jeu. Je me dis, putain, mais c'est un métier formidable. C'est marrant, finalement. Je m'amusais.
Oui, et puis surtout, vous avez des facilités, puisque... Vous ne le préméditez pas et ça arrive quand même.
Ça arrive quand même. Mmh. Mais le succès, par contre, j'y croyais pas. Mmh. Je me suis dit, je vais faire ça quelque temps. Bon, ça me fait marrer. Je faisais du cabaret le soir. Je faisais ce qu'il dit dans la chanson. Mmh. Je faisais les tournées ringardes. Je faisais les cabarets le soir. Je coupais les cravates chez Patachou. Je mettais l'ambiance à l'échelle de Jacob. Peu importe. Bon. Et et puis c'est venu. C'est venu comme les choses arrivent, se font. Le hasard, appelons ça le hasard si on veut, mais ça peut être autre chose. Et là, je me suis pris au jeu. J'ai dit, là, il faut le faire sérieusement. Mmh. Et là, je me suis mis à apprendre à chanter, à avoir une voix, à le faire sérieusement.
Voilà, il est venu et ce n'est pas un hasard sur RTL. Michel Sardou, jusqu'à 15h, Les Essentiels, à tout de suite.
RTL, Les Essentiels de Michel Sardou, Marie Drucker. RTL, Les Essentiels de Michel Sardou, présenté par Marie Drucker.
Michel Sardou, est-ce que vous vous souvenez des premières, toutes premières paroles de votre toute première chanson?
Non. Bonne question. Non. Si, porter du madras et des cheveux longs.
Oui.
Ayez l'air de fille étant des garçons. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Et après, je sais plus.
C'est pas mal déjà.
Oui.
Ça ressemble un peu à une chanson d'Indochine.
Mais un petit
garçon
peu.
Aux cheveux longs.
Oui, oui, oui. Ça, oui.
À votre place, il y a quelques semaines dans ce studio, Guy Bedos vous a rendu hommage d'une certaine façon, puisqu'il a choisi dans ses essentiels l'une de vos chansons qui s'appelle Je vole, qui est une chanson comme ça sur un jeune homme qui quitte ses parents, mais qui leur rend hommage aussi. Pour fermer la page familiale, si vous deviez rendre hommage à vos parents pour quelque chose, les remercier de quelque chose.
Je peux les remercier de ne pas avoir dit non quand j'ai dit je vais être artiste. Parce que très souvent, les pères d'artistes disent non. Et c'est pas un métier. C'est trop dangereux, c'est trop risqué, c'est très aléatoire, surtout en ce moment. C'est de courte durée avant de faire une carrière. Vaut mieux que tu sois avocat, notaire, machin, homme d'affaires. Fais tes études. Bref. Quand moi je suis arrivé devant mon père, j'ai dit, écoute papa, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je veux être artiste. Mais pour moi, être artiste, ce n'était pas être chanteur. C'était...
Monter sur scène?
C'était d'abord faire de l'art dramatique. D'ailleurs, je conseille à tous les jeunes chanteurs de commencer par l'art dramatique. Ça donne une présence, ça donne une allure, on sait bouger sur scène. Très souvent, les chanteurs chantent très bien, mais bougent comme des huîtres. C'est pas bien. Bref, il m'a pas dit non. La seule chose qu'il m'a dit, c'est il a ouvert la porte et il m'a dit d'accord, mais il faut que t'en vives, tu te démerdes. Tu reviendras à la maison que si t'es malade, c'est tout. Et il a refermé la porte, il m'a foutu dehors.
On dirait une scène d'une pièce de théâtre,
d'ailleurs. Donc il a fait que je fasse du cabaret, des petits métiers, des trucs pour bouffer. Et puis petit à petit, c'est venu. Voilà.
C'est plus obligatoire maintenant, les trois coups.
Non, c'est plus obligatoire et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Je fais du théâtre, comme tu le sais. J'ai toujours demandé à ce que les trois coups, notamment dans mon théâtre, la Porte Saint-Martin, soient respectés. Alors après qu'on envoie de la musique, parce que maintenant on envoie de la musique avant toutes les pièces, ce qui est un peu concon, parce que c'est une espèce de musique d'ambiance, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec la pièce réelle. Bon. Donc j'ai toujours eu les tac 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 tac. Et alors j'ai une très belle anecdote, et je me sers toujours du même brigadier, c'est qu'un grand comédien, Jean Danet, qui pendant des années a dirigé les Tréteaux de France, que j'admirais énormément, qui était un très très bon acteur, un jour est venu me voir quand j'ai acheté le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il est venu me voir, il y avait sa femme est venue me porter un cadeau. Et ce cadeau, c'était la réplique du brigadier de Molière, c'est-à-dire un bois très clouté, et la garde emplumée, c'était des plumes. Donc à chaque fois, parce qu'on l'entendait très fort, parce que c'était que des clous, on l'entendait, ça faisait beaucoup de bruit. Et donc à chaque fois, j'exigeais qu'il y ait les trois coups avant de lancer la musique, quelle que soit la musique, peu importe. Et je maintiendrai en 2014, là, quand je vais faire ma pièce, il y aura toujours les trois coups avec toujours mon brigadier. deuxième mouvement de la septième de Beethoven, le plus beau moment que j'ai passé.
Vous me disiez l'avoir en tête, vous avez fait le Paris-Dakar deux fois.
Oui, j'avais ça dans le casque. J'avais à l'époque, il n'y avait pas encore d'iPod et de machin. J'avais ma cassette et j'avais ça dans le casque. Et je me suis tapé pendant des milliers de kilomètres de désert, dans le sable et dans les dunes, le deuxième mouvement de la septième. Et c'est magnifique. Alors, il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version de Karajan. Il y a une version un peu plus musclée, mais je trouve que celle de Karajan est plus, certainement plus, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, bien entendu, Beethoven, mais
ah bon
plus dans son esprit. J'aurais pu, mais quand même.
Du coup, en préparant cette émission, j'ai retrouvé une lettre que Haydn a écrite à Beethoven en 1793. Bon, on ne va pas lire toute la lettre, mais à la fin, il lui dit « Vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. » Je me suis dit que ça vous correspondait
plusieurs
pas
vies.
Mal, ça.
Plusieurs vies, vie secrète,
ah bon
le beloved de Beethoven, on ne sait pas qui c'est. C'est un secret, sa femme, la femme qu'il a aimée, on ne sait pas qui elle est. Et ça devait être une femme très importante à l'époque. Il avait plusieurs cœurs, plusieurs têtes, plusieurs âmes.
Ouais. Mais ça rejoint une chose que vous dites, Michel Sardou, vous dites que tous les artistes ont plusieurs facettes et que souvent celle qui paraît la plus sincère est la fausse. Alors, quelle est à
tu
vous...
Tu parlais de Guy Bedos tout à l'heure, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour Guy. Quand tu vois son spectacle, tu dis, ça aurait été un type hargneux, ça aurait été un type ronchon, ça aurait été aussi, alors que c'est la crème des hommes.
Oui. Enfin, ça, c'est le premier degré de lecture, quand même. Faut pas être très, très fin
oui,
pour nous s'arrêter.
C'est la crème des hommes.
Là.
On s'entend qu'on est amis, et bien, même s'il dit qu'on a rangé les revolvers et qu'on se marre, on n'a jamais eu les revolvers, parce que c'est pas la politique qui va nous séparer, on est des acteurs. Lui, comme moi, lui, un très bon acteur. Et un très bon auteur de sketch.
Oui, mais sur vous, Michel Sardou, où se situe l'ambiguïté? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Quelle facette vous pouvez montrer qui paraît la plus sincère et qui ne l'est pas?
J'en montre aucune au public.
Sympa.
Non, parce que au public, je suis obligé de rentrer sur scène. Comment vous expliquer ça? Quand vous rentrez sur une scène, quand vous vous montrez, vous êtes forcément un personnage, même si ce personnage est soi-disant vous. Je suis en smoking, je suis maquillé. Je rentre à mon mieux, on va dire. Bon, et là, évidemment, je joue des chansons. Alors, sur ces chansons, il y a 10% de moi, effectivement, de moi-même. Mais 90%, c'est du show. C'est pas l'homme que je suis tous les jours dans la vie.
Mais alors, question à l'envers, quand êtes-vous totalement focus?
Complètement focus, je ne suis jamais focus. J'ai toujours ce que je pense. Mais quand je suis vraiment sincère, quand je suis vraiment moi-même, c'est dans l'intimité. C'est avec ma femme, c'est avec mes amis. C'est être vraiment soi-même, ça veut pas. C'est comme les acteurs qui veulent absolument rentrer dans leur rôle.
Ah, mais c'est encore autre chose. Je pense que c'est pas la
vivre.
Même chose.
Ben si, c'est pareil. Moi, quand je rentre, c'est pour jouer. La fameuse expression, on bascule dans le personnage, c'est pour rire, c'est pour m'amuser. Quand je rentre sur scène, c'est pas pour m'emmerder. Je rentre sur scène pour chanter, parce que ça me fait plaisir de chanter. Le jour où je prendrai plus de plaisir à chanter ou à jouer une pièce ou à me montrer en scène, je te jure que j'arrêterai.
Alors, on n'arrête pas. On reste ensemble vraiment jusqu'à 15h avec Michel Sardou pour ses essentiels. À tout de suite.
RTL. Les essentiels de Michel Sardou. Présenté par Marie Drucker. RTL, 13h30, 15h, Les Essentiels de Michel Sardou. Présenté par Marie Drucker.
Michel Sardou, juste avant la pause, vous me disiez que quand vous montiez sur scène, il y avait 10% de vous-même, 90% de show, parce que vous êtes un vrai interprète aussi. Mais quel degré de sincérité?
Quand je chante une chanson, disons, on va dire polémique, ou qui peut prêter à polémique, ou qui donne une position. Il y a une partie de moi qui prend cette position, mais le reste, c'est un jeu. En fait, je suis sincère tout le temps, sauf quand je joue. Tu sais ce que disait mon beau-père François Perrier, ma profession, c'est menteur. Mais je mens avec
grand
une telle témérité...
Grand comédien qui était le père de votre épouse.
Oui, telle témérité qu'on y croit encore plus que quand je dis la vérité. Quand je dis la vérité, on ne me croit pas. Alors des fois c'est compris, des fois c'est pas compris, mais tant pis.
Donc un choix sincère, incontournable et essentiel de Michel Sardou sur RTL.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Là, ils se lâchent complètement. Enfin, ils
Hey Jude, 1968. Ouais. Les Beatles, comme disait votre père.
Ouais, les Beatles, comme disait mon père.
Vous savez qu'on est aujourd'hui dimanche 7 octobre, avant-hier le 5, il y a 50 ans, les Beatles faisaient sortir leur premier single, Love Me Do. Ça a 50 ans.
Oui. Et ça, écoute le son, c'est pas tellement loin de ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est mieux. Pourquoi est-ce une de vos préférées?
Bah parce que ce que j'aimais bien chez les Beatles, c'était toujours la recherche. Pour te donner un exemple, un jour Lennon, si vous voulez, se faire attacher au plafond par les pieds, se faire tourner pour que la voix tourne. Finalement, on ne l'a pas accroché par les pieds parce qu'il n'allait pas pouvoir chanter.
Et vomir, surtout.
Et vomir. Et donc, on a fait passer la voix dans Leslie. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait comme dans cette chanson-là des codas. C'est-à-dire qu'on chante d'abord la chanson telle qu'on l'a écrite, puis à un moment donné, à la fin, on commence à s'amuser un peu. Et tout le monde s'y met. Le pianiste commence à improviser, même le preneur de son rentre dans le studio, il se met à faire waouh, wadadadam. Il se marrait, il faisait des recherches comme ça sans arrêt. Il mettait souvent des bandes à l'envers pour avoir la batterie à l'envers. Il faisait une recherche déjà très, 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 très affinée du son, comme on fait aujourd'hui maintenant, mais avec des procédés beaucoup plus commodes. À l'époque, c'est quand même des bandes. C'était pas les mêmes. Il y avait pas l'Apple pour nous chercher tel son. Ils cherchaient les sons, ils cherchaient la couleur vocale. Ils avaient. Ça m'a toujours fasciné. Ça. Et dans Hey Jude, comme ils slashent à la fin, c'est marrant parce que je suis sûr que la coda, en vérité, a dû durer une heure et demie quand ils l'ont enregistré. Ils ont dû se marrer comme des fous. Il doit exister quelque part un master original où ça dure une heure et demie la fin.
Alors maintenant, on va quitter Londres. On va tourner une page de réclame et après, ce sera l'Amérique sur RTL.
RTL, les essentiels de Michel Sardou, Marie Drucker. RTL, jusqu'à 15h, les essentiels de Michel Sardou.
Alors, on a écouté les Beatles juste avant la pause, Michel Sardou. Après Londres, donc, le rêve américain dans les années 80. En 1980, d'ailleurs, je crois, vous décidez de partir vivre aux États-Unis.
Non, pas vivre. J'achète une maison... de vacances. J'ai jamais vécu aux États-Unis.
À Miami ?
À Miami, oui, en Floride.
Mais vous y passez pas mal de temps pendant une vingtaine d'années.
Trois mois par an. J'allais en vacances et j'ai mis mes enfants à l'école là-bas, par contre. Mais il n'y avait pas de... J'étais pas résident. J'étais comme on a le droit d'acheter une maison n'importe où, une maison secondaire. Bon.
Oui, mais c'est pas neutre, c'est pas anodin.
C'était
qu'est-ce
pour
qui
les
vous
enfants.
Pousse à aller aux États-Unis ?
Surtout pour les enfants. Je voulais qu'ils aient une
double culture,
une connaissance de l'anglais parfaite. Je me rendais compte à l'époque que si on ne parle pas anglais parfaitement aujourd'hui, c'est un handicap. Donc aller à l'école, c'est ce qu'il y a de plus facile pour apprendre l'anglais, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et les études étaient parfaites. En plus, c'était marrant. Ils sont en plein soleil, quelques ouragans sur la gueule. Enfin bon, ça allait très bien.
En même temps, Miami, c'est en Amérique, c'est sûr, mais ce n'est pas l'Amérique. Vous savez, comme on dit de New York, c'est New York, c'est pas l'Amérique. Miami, c'est pareil.
Tous les États, tu veux dire le Texas, il regarde bizarrement le reste des États. Le Kentucky ne peut pas piffer de Montana, qui lui-même se demande ce qu'il fait dans l'Union encore.
Oui, mais il y a quand même les côtes. Oui. Plutôt riche, plutôt blanche et plutôt voilà. Et puis il y a quand même l'Amérique profonde au centre. Miami, est-ce que vous êtes vraiment dans la vie américaine à ce moment-là?
C'est-à-dire que je me suis jamais posé cette question parce que je ne voulais pas m'intégrer, moi. Je voulais pas vivre en Amérique. C'est-à-dire que moi, j'avais une maison en Amérique, j'étais sur un golf, j'avais des copains, j'allais en vacances. Bon, mais sorti de là, au bout de deux mois, j'en avais marre, moi, de la Floride. C'est sympa, il fait beau l'hiver, bon, c'est très bien. C'est l'été en hiver, c'est parfait.
On a l'impression de vivre dans un film ou pas?
Au début, oui, la première fois, oui. Maintenant, vivre là-bas, honnêtement, j'ai pas envie. C'est très différent. Alors, je connais pas d'autres États. Bon, je connais un peu le Kentucky, puis les chevaux de course, mais c'est très particulier. C'est une façon de vivre très particulière, donc qui ne me convient pas trop, moi.
La bande originale, quand même, de votre rêve américain.
Oui.
We'll be right back.
La bande originale des Chariots de Feu.
Oui, alors là, quand tu parlais du rêve américain, là, j'étais vraiment dans un film. C'était la première fois où j'allais aux États-Unis. J'allais à Los Angeles, et tiens-toi bien, j'habitais chez quand même Madame Listella. J'étais reçu comme un roi. J'ai rencontré Red Charles, j'ai rencontré David Carradine, j'ai rencontré nombre de vedettes qui passaient chez elle. Avait une maison magnifique tout en haut de Beverly Hills. En plus, une histoire d'amour s'est greffée là-dessus.
Des noms.
Ah non, pas des noms. Très célèbre, en plus, je ne peux pas. Là, alors là, c'était vraiment le rêve. Autant Miami, après, c'était une maison de vacances pour les, bon, et puis pour les enfants à l'école. Autant là, j'étais dans un vrai film. J'avais la bagnole de Listeller, quand il y a marqué Listeller sur la plaque. Je conduisais ça dans Melrose et j'allais acheter mes jeans en cuir et mes chemises à boutons de nacre.
Dieu merci, Anne-Marie, votre épouse, a mis fin aux boutons de nacre et aux jeans en cuir.
Oui, je me suis ça, évidemment. C'est la première chose qu'il a foutu la poubelle.
Les a brûlés. Ça, c'est un clin d'œil qu'on va. On reste quand même aux États-Unis et du côté de Miami.
Ah,
1975,
c'est
dans
très
la
important,
mer.
Très important. J'avais pour habitude de me baigner la nuit, et surtout près des bouées, tu sais, qui indiquent ce qu'on appelle ça les dangers isolés. Je peux te dire, pendant 5 ans, j'ai plus jamais plongé de nuit en mer pendant 5 ans.
C'est démodé ou pas? Je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, les dangers.
Écoute, j'ai revu il n'y a pas longtemps,
ça
c'est
fait
pas
peur
démodé.
Ou pas
non, parce que maintenant on est habitué, mais la première fois qu'on l'a vu, je m'en rappelle, c'est. On était quand même terrorisés. Ça a traumatisé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui foutaient plus dans l'eau. Après, il y a eu une seconde, troisième, et puis la revanche. Mais c'est vrai qu'à Miami, quand même, moi, je voyais les requins en dessous. Quand j'étais en bateau, quand on partait en bateau avec Romain, mon fils, on allait à la pêche. On avait un petit bateau de pêche, un petit Bertram. Et on les voyait tourner autour, quand même. Donc moi, je plongeais à la fin pour me redonner du courage. Parce que c'était pas des requins méchants, c'est pas des requins blancs, évidemment.
Ouais. Puis il s'agissait pas de perdre la face devant votre fils, non?
Mais
plus.
Enfin, je m'éloignais pas trop de l'échelle, quoi, tu vois. Je peux pas dire que j'allais vraiment. Ça m'a traumatisé, quand même, ce putain de film.
C'était un clin d'œil dans vos essentiels, Michel Sardou. Une nouvelle pause et on se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 15h. À tout de suite sur RTL.
RTL, les essentiels de Michel Sardou, présenté par Marie Drucker. RTL, les essentiels de Michel Sardou, Marie Drucker.
Et avec vous, Michel Sardou, on va parler politique maintenant. Non, je plaisante, enfin, quand même. Badlands, le boss, Bruce Springsteen. Vous m'avez dit, je choisis celle-ci. C'est difficile de choisir une chanson de Bruce Springsteen.
C'est une des meilleures.
Vous m'avez dit, c'est une des plus belles.
C'est une des plus belles, oui. C'est une des plus belles.
Quand avez-vous entendu Springsteen pour la première fois?
C'est très marrant. C'était à l'époque, il n'était pas encore célèbre. Ça remonte déjà à quelques années. Et j'étais dans une ville de rodéo. Et dans une ville de rodéo, il y a toujours ces petits bars américain, où il y a les orchestres un peu country, un peu... Il lui est arrivé, il avait son lecteur de cassette. Il a posé son lecteur de cassette, il avait ses bandes, il y avait juste l'orchestre sur ses bandes, et il chantait sur ses bandes. Et je l'ai vu chanter pour la première fois dans ce truc de cow-boy, où tout le monde boit de
c'est
la
quoi,
bière.
C'est quoi, dans les années 70
C'était avant.
Avant
Oui, 68, des choses comme ça. 69, oui, t'as raison, 70. Et j'ai dit, putain, il a une voix formidable, ce mec. Et il était payé au cacheton, comme on faisait du cabaret, tu vois. Et après, il a immédiatement, il a explosé très vite. Et je trouve que c'est un chanteur, d'abord remarquable par la puissance de voix, par la durée des concerts. Il est capable de chanter 4 heures sans broncher. Par la simplicité des concerts aussi. Il a eu l'intelligence...
Ouais, mais quelle présence.
Voilà, il a eu l'intelligence de dire, j'ai le Hell's Band Suite... C'est son orchestre de base, qui est un orchestre magnifique. Sa voix, et puis quelques lumières, mais pas de cinéma, quoi. Il arrive, et il est là. Et il est là 4 heures.
Bon. Mais j'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'en plus, l'expression, maintenant, enfin bon, c'est aussi, ça a du sens de choisir Springsteen, c'est un artiste engagé.
C'est un homme engagé. Dans la vie, c'est un homme engagé. Et dans ses chansons aussi, il a des chansons où il exprime bien ses opinions, c'est un démocrate. c'est un type qui marche pas assez beau, qui le dit, rock'n'roll, quoi. C'est...
Oui, mais très social aussi, c'est-à-dire que...
Ah oui, oui, c'est pas une...
Je vois bien ce qui peut vous lier, mais il est beaucoup plus social, entre guillemets, que vous l'êtes dans vos chansons, par exemple.
Ah non, on est pareil. On est pareil. Moi, dans mes chansons, j'ai pas une agressivité particulière dans une ou deux, lui aussi, d'ailleurs. Mais disons que c'est un homme en entier, quoi. C'est-à-dire que... le rock and roll, c'est pas uniquement un rythme, c'est aussi des mots. On l'oublie souvent, ça. C'est souvent une position, rock and roll. C'est pas la rock and roll attitude n'est pas celle que l'on croit. C'est aussi. Et lui, c'est ça. Bon, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est venu voir sa fille qui faisait du jumping. Il faisait un concours de jumping en Europe. C'est un papa maintenant, bon, on est à peu près de la même génération, mais toujours.
Lui, il a toujours les chemises avec les boutons en nacre. Hein.
Oui, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que sur scène, mais dans la vie, il avait la cravate et tout. Là, de toute façon, c'était très chic. Il était obligé d'avoir la cravate, mais bon, là, il s'emmerde un peu. Mais il est resté cow-boy. Mais c'est un homme de l'Ouest, c'est un cow-boy.
Mais vous êtes très politique aussi, quand vous chantez Je suis pour le France, même femme des années 80.
C'est pas politique du tout.
Ah, vous trouvez pas ?
C'est du social, c'est pas politique.
Sociétal, comme on dit.
Oui, social, c'est pas politique. Politique, ce serait...
Enfin, je suis pour, c'est quand même très politique.
Pas du tout, pas du tout.
Ah bon ?
Ça, je me suis expliqué 25 000 fois en parvenir là-dessus. C'est une erreur de titre. C'est la réaction d'un homme, c'est la loi du talion. La loi du talion, tu ne peux pas me dire que c'est une politique. C'est une façon, un réflexe d'homme, un réflexe
oui,
de femme.
Oui, de dire si on fait du mal à
voilà,
mon enfant.
Si on fait du mal à ton gosse, tu ne vas pas être contente. Et ça arrive malheureusement tous les jours en ce moment. Mais là, ce n'est pas politique.
Non, mais vous avez été. Ce qui est assez rare finalement, parce que c'est pas un cliché de dire que souvent les artistes, les chanteurs, les comédiens sont plutôt classés à gauche, de même que souvent leur public, quand on veut schématiser. Vous, pendant très longtemps, vous avez assumé. Maintenant, bon, c'est. Voilà, mais pendant longtemps, vous avez assumé d'être le chanteur de droite.
Ça ne me dérangeait pas, bon fou. Ça n'a aucune importance. J'y suis indifférent. Je suis indifférent à la politique, peu importe.
Aujourd'hui ?
Non, j'ai toujours été. J'ai toujours été. La chose pour laquelle je me passionne, c'est quelque chose qui apporte quelque chose à mon pays, qui soulève l'enthousiasme, ce qu'on a plus.
Mais vous êtes quand même allé, moi je trouve, très loin, parce que j'ai revu en préparant cette émission beaucoup de vos clips vidéo, de vos passages à la télévision. Quand vous chantez Les Ricains, elle est quand même dingue cette chanson, on est en 1967.
Elle n'est pas dingue du tout, ils ont bien débarqué. S'ils n'avaient pas débarqué, on serait allemand,
ma petite
poupée.
Je ne dis pas le contraire, je connais mes classiques et je connais la chanson par cœur. Je ne dis pas le contraire.
Alors ils ont dit que c'est une chanson.
Vous savez très bien que quand vous levez le bras.
C'est une chanson fasciste.
Non, mais quand vous levez le bras et que vous dites.
Bah oui, je dis ce que c'était.
Oui, mais je trouve que c'était culotté de faire le salut nazi, même pour le dénoncer, à l'époque.
J'ai un certain culot.
Ça ne m'avait pas échappé.
Je le reconnais. Mais je veux dire, qu'est-ce que je raconte? Je raconte à Mahavitch, j'habite à côté. Donc je vois bien où c'est.
Aujourd'hui, vous habitez à côté.
Bon, donc s'ils n'étaient pas venus. Alors les gens ont cru, ils m'ont dit fasciste. Mais c'est l'inverse, ils sont venus tuer le fasciste. Ils ne sont pas venus. Bref, ça, j'ai vécu qu'un malentendu, mais ce n'est pas grave.
Je suis sûr que ça vous a plu, le malentendu, pendant des années.
Ça dépend, oui et non. Au bout d'un moment, c'est lassant. Parce qu'on se dit, merde, j'écris en français, ils ne comprennent pas le français. Au bout d'un moment, ça fatigue.
RTL, jusqu'à 15h avec Michel Sardou pour ses essentiels. A tout de suite.
RTL. Les essentiels de Michel Sardou, présenté par Marie Drucker. RTL, jusqu'à 15h, les essentiels de Michel Sardou.
C'est difficile d'arrêter de fumer, Michel Sardou, non ?
Oui, mais je vois
avec votre cigarette électronique.
Je sais que ma cigarette électronique, ça a l'air de marcher, ça fonctionne. Ça fait 3 jours que je n'ai pas touché un clope. J'ai intérêt, d'ailleurs, d'après ce que m'a dit mon toubib. Autrement, je n'ai pas chanté longtemps. Donc, j'espère pouvoir aller au moins jusqu'au bout de ma tournée. Quoi.
En tout cas, jusqu'à fin mars de l'année prochaine.
Ouais.
On écoutait Springsteen, le boss, tout à l'heure. Tiens, est-ce que vous pensez que vous-même, vous êtes le boss ?
Non, ça ne veut rien dire, ça. Boss, taulier, ça c'est des expressions répandues. On est le boss de personne, puisque nous sommes tous des individualités. Chaque chanteur a sa personnalité, chaque chanteur a son style, chaque chanteur...
Oui, mais vous avez un ultra-statut en France.
Bon, j'ai un statut de longévité, qui est difficile maintenant, il faut que la jeune génération le fasse. Mais peut-être que dans 30 ans, vous aurez devant vous un jeune d'aujourd'hui qui vous dirait « Vous êtes un vieux dinosaure », vous lui direz ça à ce moment-là. Mais, mais je veux dire le boss de qui, boss de quoi, non, ça ne veut pas dire grand-chose.
Après le boss quand même, le king.
Ah, le King, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.
One of our favorites called My Way.
And now, the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. And it's mine.
Elvis Presley, un concert à Hawaï. Alors, pour les vraiment très, très spécialistes qui ont votre oreille, Michel Sardou...
Il y a un pain de cuivre épouvantable à la Coda. Enfin bon, ça arrive sur scène, c'est du live. Hein. Mais ça me fait marrer qu'il y ait eu un pain de cuivre. Alors qu'ils ont très peu de partitions dans la chanson, mais il y en a qui a dû être impressionné, je ne sais pas par qui. Mmh. Et paf, il nous a fait un pain.
Vous disiez, il ne chante pas dans la tonalité de Sinatra. Il aurait pu le faire
Il aurait pu le faire, mais je crois qu'il a voulu le faire plus crooner. Il le chante un peu bas. Ce qui fait que comme il avait beaucoup maigri pour ce concert,
il avait
perdu
un
peu de puissance dans les basses. C'est un peu le piège, ça. Quand on maigrit trop vite, on perd de la puissance dans les basses. Bon, ça, c'est très technique. Mais c'est un spectacle magnifique. C'était un de ses plus beaux.
Que représente Elvis dans l'histoire de la musique?
Oh, c'est toute une... Il n'y a pas qu'Elvis. Elvis, c'est tout le début de la folie rock'n'roll. C'est-à-dire, c'est Elvis, Marshall, c'est Jerry Lewis, comment s'appelle-t-il Walk the Line.
Johnny Cash. Merci, Yves Bigot.
Merci, c'est toute cette génération-là. Et lui, avec cette voix formidable. C'est-à-dire... Presque au début, d'ailleurs, on ne croyait pas qu'il était blanc. Beaucoup d'Américains croyaient que c'était une voix de black. Ils disaient, c'est pas un blanc qui peut chanter comme ça.
Et Michael Jackson, c'est le contraire. On croyait qu'il était blanc.
Oui. Et ça a marqué toute une génération, tout dans le monde entier.
On le disait tout à l'heure, Michel Sardou, dans les années 70, votre bande de copains, Eddie Mitchell, Johnny, Michel Fugain, vous êtes tous devenus des stars, chacun un genre très, très différent. Est-ce qu'on peut encore composer des carrières comme les vôtres aujourd'hui? C'est-à-dire,
pourquoi pas,
avec que des tubes, beaucoup de tournées, des carrières qui durent surtout et qui traversent les générations?
Je ne peux pas vous répondre. Certainement, mais il faut leur laisser le temps. Aujourd'hui, le problème, en fait, pour les jeunes qui arrivent, c'est que on ne leur laisse pas le temps de se découvrir. Là, j'ai fait une émission avec des jeunes femmes formidables, qui chantent vraiment bien, qui sont jolies, qui ont du charme, qui savent bouger, qui ont déjà des bases. Mais il faut leur donner un petit peu de temps avant de les mettre.
Qui sont-elles?
Je parle de Shai, par exemple, de Tal, et d'autres. Mais c'est encore tout frais, tout jeune. C'est-à-dire que la voix n'est pas encore vraiment encore posée, pas encore fouillée. Il y a des techniques qui manquent. Ce qu'elles chantent aujourd'hui, peut-être qu'elles ne le chanteront pas demain, elles chanteront autre chose. C'est là où se fait la carrière, c'est quand les artistes se découvrent. Seulement maintenant, malheureusement, le métier est un hachoir. Il faut aller très vite. Il faut tout de suite arriver et tout de suite être une vedette, pratiquement. On leur donne très peu de temps pour se préparer. Alors, il est impossible d'apprendre à jouer du piano en 3 mois, d'apprendre à chanter en 3 mois, d'apprendre à être un acteur en 3 mois, d'apprendre à être un médecin en 3 mois. Il faut des années.
Oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup Internet, beaucoup moins les bacs de
disques.
Oui,
mais Internet, c'est très éphémère. Ce qui passe sur Internet, sur YouTube ou ailleurs, ça marche pour aller une semaine, on se marre, on regarde le truc, c'est pas mal, c'est bien. Quelquefois, certains en sortent. Il y en a qui en sortent, heureusement. Mais je veux dire, c'est pas le vrai métier comme nous l'avons connu.
Non, mais c'est ce qui fait qu'on vend moins de disques.
Oui, ça aussi. Mais nous, on a connu un métier, on a commencé par le cabaret, on faisait un peu de tour, on faisait des tournées, des premières parties, de plus ou moins bien. Bon, on apprenait sur le public, avec le public. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile.
Hier, dans le journal Inattendu, sur RTL, je recevais Patricia Cass qui me disait, voilà, il n'y a que sur scène que je me sens... vivre, elle n'a pas dit vivante, elle dit je me sens vivre et que je me sens belle. Est-ce que c'est la même chose pour vous? C'est-à-dire que quand vous entrez et que le rideau s'ouvre et que vous avez le public devant vous, comme en décembre prochain à Bercy par exemple, c'est là où vous dites je suis invincible, tout est possible.
Invincible, non, mais c'est là où on se sent le mieux. Je ne vous cache pas que rentrer dans un studio, bon, moi, je suis tout seul avec, avec des ordinateurs. Bon, je préfère avoir mes musiciens derrière, un public devant et des lumières sur la tête, ça c'est sûr. Chanter vivant, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, avant, on faisait les disques avec nos musiciens derrière. Ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Bon, c'est là où on fait vraiment son métier. Un acteur fait vraiment son métier au théâtre, parce qu'il y a le public devant lui, il y a les réactions. Ce que disait Jouvet, au cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. C'est très différent. Donc, on se perfectionne. Au début, le début de le premier jour de la tournée, si vous venez au Havre, et puis vous veniez 2 mois plus tard, le tour de chant a pris une autre dimension, forcément.
On joue encore aux Essentiels pendant un quart d'heure avec Michel Sardou sur RTL. À tout de suite.
RTL, jusqu'à 15h, les Essentiels de Michel Sardou. RTL, les Essentiels de Michel Sardou, présenté par Marie Drucker.
Michel Sardou, dernier choix essentiel de votre sélection aujourd'hui sur RTL, Tina Turner.
Oui.
Vous la connaissez d'abord ?
Je l'ai rencontrée, je ne la connais pas personnellement, mais on s'est rencontrés, on s'est croisés sur un plateau de télé en Allemagne. Et je ne l'avais jamais vue chanter vivante sur une scène. Et là, je dois dire que j'ai vu une lionne en colère. C'est quelque chose. C'est-à-dire, si je devais avoir un rêve de duo, ce serait d'en faire un avec elle. Il faudrait que je m'accroche un peu, que je fasse du sport et de l'endurance. Parce que
vous avez déjà arrêté de fumer.
Croyez-moi, elle mord encore. Hein. C'est une bête. C'est une féline. Je sais pas comment la définir. Elle est magnifique quand elle chante. Magnifique.
Pensez qu'elle nous écoute et qu'elle va vous appeler.
Non, elle m'écoute certainement pas. Ou elle comprendrait pas ce que je dis, même si elle m'entendait. Mais c'est pour moi une... Et puis, elle a une vie absolument terrible. Et c'est un personnage sur scène. C'est un spectacle, elle est toute seule. C'est la façon d'avancer, déjà.
Essentiel et indémodable.
Ah oui, oui.
C'est
la voix qu'elle a, c'est
incroyable. Incroyable. On est vraiment dans la dernière ligne droite de vos essentiels. Michel Sardou, est-ce que vous estimez que vous avez négligé ou perdu des choses importantes au profit du succès quand vous regardez toute votre carrière ?
Non. Non, j'ai rien perdu. Je crois pas. J'ai dû perdre la mémoire de certaines personnes que je ne revois plus. Pour des raisons que j'ignore, mais je ne revois plus, je n'ai plus envie. Mais autrement, non.
Vous dites « toute ma vie s'est déroulée sans moi ».
C'est un peu vrai.
Elle est étrange, cette phrase. Qu'est-ce que ça
veut
dire ?
C'est vrai, c'est-à-dire que les choses sont arrivées, sont enchaînées, sans une volonté, sans avoir fait de plan, si vous voulez. J'écris d'ailleurs comme ça, j'écris sans plan. Quand j'écris mes chansons, je suis la ligne, j'écris ligne par ligne. La première ligne amène la deuxième, qui amène la troisième, qui amène la quatrième, etc. Je n'ai pas de plan avant, comme font certains écrivains. Par exemple, ils font un plan sur leur histoire. Moi, non. J'écris comme ça au fil de la plume. Et je crois que je vis au fil de la plume aussi.
Vous repartez pour une tournée intitulée « Les gromans ». Les grands moments,
oui.
Peut-être les gros moments aussi, oui. C'est un gros moment. Comment vous l'abordez cette tournée ? Est-ce qu'à chaque fois, on aborde les tournées de la même façon ?
Oui, parce que à chaque fois, on est excité par une nouveauté. C'est les vieux succès, vous allez dire, ça n'a pas l'air d'être nouveau, c'est les grands succès. Bon. Mais en même temps, c'est nouveau parce qu'on va les orchestrer différemment, on va les mettre en scène différemment. J'ai fait construire une scène jolie, avec un éclairage où je vais être le premier. Ça, j'ai l'exclusivité de ce nouveau système. Comme j'ai été le premier à utiliser les Varilight, là, je suis le premier à utiliser les Vipers. T'as jamais vu les Vipers ?
Ah non.
Quand tu vas voir ça, Quand tu vas voir ce que ça fait comme lumière, tu vas, à mon avis, tu vas me téléphoner.
En tout cas, je pense que les auditeurs de RTL auront passé un grand moment avec vous, Michel Sardou. Alors, je redis donc, de fin novembre à fin mars, c'est la tournée Les Grands Moments. Trois concerts à Bercy, les 12, 13 et 14 décembre. Les Grands Moments, c'est aussi un double album qui sort le 22 octobre prochain. Et puis, Richard Melloul a commis un nouvel ouvrage avec vous, de photographie.
Avec ma gueule.
En chantant, chez Flammarion. Oui. C'est ce qu'on appelle un beau livre. J'ai jamais compris pourquoi on faisait cette expression, parce que son précédent n'était pas un beau livre, mais il n'était pas moche non plus. Donc voilà.
Bah, c'est un livre luxueux, sur bien sûr. Il veut dire ça.
Ouais. Oui, je vous remercie.
Mais pardon,
de rien. Non, mais c'est pas grave. Merci d'avoir partagé vos essentiels avec les auditeurs de RTL. Michel Sardou, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous samedi pour un journal inattendu à 12h30 en direct exceptionnel. Je recevrai le patron de France Télécom, Stéphane Richard, et puis dimanche à 13h30, à votre place, Michel Sardou, Boris Cyrulnik pour ses essentiels. Et tout de suite, c'est Laurent Boyer et son grand quiz de l'histoire de France. Très bon après-midi sur RTL. Merci Michel Sardou.
Salut Marie.
RTL, les essentiels de Michel Sardou, Marie Drucker. Vous écoutez RTL.